Nature Urbaine, l'émission qui relie le vivant et la ville, animée par Pierre Darmet, en partenariat avec les Jardins de Galie.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Natures Urbaines, l'émission qui relie le vivant et la ville. Pas de jingle aujourd'hui, façon médecine douce, mais tout de suite sans plus attendre notre billet, le billet vert. Pourquoi prendre cette voix douce, ce ton posé? D'abord parce que nous allons, aujourd'hui encore, parcourir ensemble les liens féconds entre nature et santé. Ensuite, connaissez-vous Petit Bambou, cette application de méditation censée nous amener sur la voie de la détente et de la sagesse? Il y a là un clin d'œil végétal que nous nous approprions volontiers. Enfin, parce que notre billet est consacré à la distance. En parlant lentement, j'augmente la distance entre les mots et je réduis peut-être celle qui nous sépare. Une chaîne de télévision n'avait-elle pas pour slogan « De près, on se comprend mieux » ? L'Académie française nous donne la définition suivante du mot « distance ». Intervalle mesurable qui sépare deux points de l'espace, un objet d'un autre, une personne d'une autre ou d'un objet. La distance d'une ville à l'autre, entre deux villes, calculer, mesurer une distance, franchir, parcourir une distance. Alors, distance avec les objets, certes, mais aussi avec les espaces. Vivre à faible distance d'un espace de nature serait bénéfique à la santé mentale. Une étude suédoise menée en 2010 indique que les citadins vivant à moins de 300 mètres de distance d'un espace de nature présentent un niveau de stress plus faible que ceux vivant à plus d'un kilomètre. Une étude mentionnée par Plante et Cité dans une excellente synthèse sortie tout récemment et à laquelle notre invité a contribué. La distance a aussi un rapport avec le temps. Deux événements à distance les uns des autres. Et d'ailleurs, les deux dimensions se mêlent en ville, car on parle de ville du quart d'heure pour désigner justement la proximité de commun, par exemple, d'espace de nature. Tiens, tiens, de quart d'heure, il pourrait être question aujourd'hui puisque notre invité est angevin. Il s'agit à l'inverse de rester à distance des espèces sauvages et de leur milieu. Avez-vous déjà remarqué, en tentant de les approcher, qu'à partir d'une certaine limite, distance, les oiseaux s'envolaient, les biches ou même les petits lapins détalaient? Les animaux se tiennent à distance des humains, pour leur seul bien, mais aussi pour le nôtre. Tenir quelqu'un à distance, c'est, nous dit l'Académie, lui interdire toute familiarité, refuser d'avoir des relations étroites avec lui. Hashtag MeTooAnimals, en quelque sorte. Les petites bêtes, avant l'heure, avaient tout compris. Songeons par exemple aux zoonoses, ces maladies qui se transmettent des animaux aux humains lorsque les habitats naturels sont fragmentés, voire détruits par nos zones en tout genre dont la surface continue de progresser. Mieux vaut maintenir de la distance à l'égard des zones naturelles et garder ces distances à l'égard d'un projet qui nous interrogerait. Autrement dit, comme le précise l'Académie, montrer beaucoup de réserve et de prudence à son égard. Car oui, la distance peut aussi être symbolique. Tenez par exemple l'humour anglais, caractérisé par ce flegme unique. Un gentleman peut sortir la boutade de la décennie, jamais il n'en rit. Il prend de la distance. Attention cependant dans certaines situations, car à prendre trop de recul, on finit par trébucher sur son séant. Alors que dites-vous d'y songer, de distance à distance? Lorsqu'il est question des rapports entre le vivant et la ville, tous deux très divers, prenons de la distance, car toute forme de nature n'est pas à sanctuariser, pas plus que tout espace n'est absolument à fréquenter. Après la distance, il faudrait peut-être parler de nuances, mais ce billet est déjà long et il nous faut ensemble, chères auditrices, chers auditeurs, jusqu'à la fin tenir la distance. Alors en attendant, en espérant que vous êtes plus détendus, nous vous souhaitons une bonne séance.
Nature Urbaine, l'interview, première partie.
Deuxième épisode de notre mini-série, La nature, c'est la santé. Un titre aguicheur. Ça ne vous aura pas échappé pour vous qui avez peut-être écouté la première émission, et c'est assumé. C'est même un petit peu réducteur comme titre, vous l'aurez compris. Pour nous guider sur le chemin des relations complexes entre nature en ville et santé, retrouvons donc notre invité venu d'Angers. Bonjour Gilles Galopin.
Bonjour.
Et restez avec nous avant la première partie, car dans une vingtaine de minutes, nous partons à la rencontre d'une jardinière énergique qui, à l'aide d'un vélo électrique, va entamer un tour de France des jardins à visée thérapeutique. C'est en effet le thème de ce deuxième épisode, après la recherche, l'action. Alors Gilles, lors de notre premier entretien, vous avez partagé avec nous les dernières recherches scientifiques et vous avez donné des clés aux acteurs des villes pour créer de meilleurs équilibres avec le vivant en faveur de la santé. En quelques mots, tentons tout d'abord l'exercice périlleux d'un résumé pour ceux qui nous rejoindraient. Quelle est votre définition de la nature dans ce contexte avec le mot écosystème urbain et comment définir la santé?
Alors, vous utilisez le mot écosystème. Donc, l'écosystème est composé du vivant, qu'on appelle la biocénose, donc l'ensemble du vivant, et de son environnement, qu'on appelle le biotope. Et en fait, l'homme, c'est le vivant le plus important de la ville, et la ville, c'est son environnement. Donc, heureusement, depuis une quinzaine d'années, on parle en ville de l'écosystème urbain. Et donc, un écosystème, ça veut dire qu'il faut introduire de la nature en ville pour que cet écosystème soit viable, durable et fonctionnel.
Alors, le mot nature, avec ce prisme, est résumé. Qu'en est-il de la santé?
Alors, la santé, en fait, c'est un terme qui est défini depuis très longtemps par l'Organisation mondiale de la santé, qui définit un complet bien-être mental, psychologique et social. Et ne se limite pas simplement à une absence de pathologie. Ça, c'est fondamental. Et donc, pour contribuer effectivement à ce bien-être, il va y avoir des facteurs de risque qui vont conduire plutôt vers un état de dégradation de la santé. Il va y avoir des facteurs de ressources qui vont contribuer plutôt vers des éléments favorables en fait pour la santé. Les éléments à risque, on appelle ça de la pathologie. Les éléments favorables, on appelle ça de la salutogénèse. Et donc, on devra naviguer entre les deux pour que l'être humain, le citadin globalement, puisse se trouver toujours en état de bien-être et de bonne santé.
Alors, nous avons navigué la dernière fois, nous avons même emprunté ce chemin sinueux et très intéressant de ces relations entre nature et santé. Maintenant, si on s'intéresse au niveau d'action en faveur de l'amélioration de la santé, combien de niveaux pouvons-nous citer et quels sont-ils? Je crois qu'il y en a trois.
Alors, quand on s'intéresse à la santé, je disais tout à l'heure que la santé n'est pas un état. Santé, c'est quelque chose qui évolue au cours du temps. Mmh. Et donc, ça va évoluer au cours de notre vie, entre notre enfance et puis l'âge adulte. Et ça va évoluer aussi en fonction de l'environnement dans lequel on se trouve. Et donc, effectivement, vous avez raison, on différencie trois situations lorsqu'on aborde la notion relation végétale-santé. La première situation, c'est la situation de la vie de tous les jours. Mmh. C'est-à-dire, a priori, on est en bonne santé, mais on veut la conserver. On veut même l'améliorer. Donc, c'est notre environnement quotidien. Je reviendrai donc là-dessus tout à l'heure. La deuxième situation, c'est quand il y a des risques avérés. C'est-à-dire, vous êtes dans une situation où les facteurs de risque sont importants et ils peuvent éventuellement aggraver votre situation de bien-être et de santé. Je pense, par exemple, à des situations professionnelles, dans le cadre du milieu professionnel, où là, il peut y avoir des facteurs de stress, des facteurs d'exigence, on va dire, de performance, de vitesse de travail, enfin, un certain nombre de choses qui peuvent être des facteurs à risque. La troisième situation, donc on a un gradient, on va dire, quelque part, c'est qu'effectivement, la personne, elle a une pathologie reconnue. Dans ce cas-là, elle est forcément stressée, elle est forcément inquiète, elle est forcément anxieuse sur son propre état de santé. Et donc là, le végétal, la nature, peuvent contribuer comme étant un médiateur thérapeutique. C'est-à-dire qu'il va accompagner la personne dans son traitement thérapeutique pour pouvoir guérir le plus vite possible.
Alors, quels sont les leviers d'action sur ces trois, sur ce gradient, sur ces trois niveaux, si on les reprend maintenant un par un? Le premier, la vie de tous les jours.
Alors, pour répondre à ça, en fait, j'ai besoin avant de vous parler des grandes théories qui expliquent comment la relation à la nature puisse améliorer la santé des individus. Mmh. Donc, les trois grandes théories. La première, ce qu'on appelle la théorie de la biophilie, qui a été définie par Wilson donc en 1984, donc, qui dit que l'homme est vivant, et donc pour trouver un bon état d'épanouissement, de santé, de vie, il doit être dans le vivant. Voilà. Alors, cette théorie est très intéressante, c'est très intéressant de la rappeler, Mais c'est vrai qu'elle apporte peu d'éléments explicatifs. Donc, autre théorie qui est intéressante, c'est ce qu'on appelle la théorie de la psychosociologie, qui a été définie par Ulrich, à peu près à la même époque, hein, et qui revient sur la notion de stress. Hein, c'est-à-dire que avoir un stress peut être utile. Hein, vous êtes coursé par un chien dans la rue, vous êtes stressé, grâce au stress, vous allez courir très vite, vous allez exploser vos performances. Et donc, c'est super.
C'est ça le secret du Usain Bolt. On ne le voit pas, le chien qui court derrière lui.
Voilà. Mais simplement, ça veut dire que pour réagir de cette façon-là, c'est votre système nerveux qui va rentrer en jeu. Et on a deux systèmes nerveux, donc au sein du système nerveux, ce qu'on appelle autonome. Mm-hmm. On a le système sympathique, qui, lui, va effectivement permettre de dégager des forces extrêmement importantes, mais qui va être épuisant, qui va vous épuiser. Voilà. Et puis, en contrepartie, on a un équilibrage entre ces deux-là, le système parasympathique, qui, lui, du coup, va plutôt vous régénérer, vous retrouver un équilibre au niveau de votre stress. Alors, c'est à ce niveau-là que la nature peut intervenir. On expliquera un petit peu tout à l'heure comment. Et puis, la troisième théorie, c'est une théorie qui est basée sur ce qu'on appelle la restauration intentionnelle. Mm-hmm. Hein, c'est Kaplan. Donc ça date, qui a travaillé une dizaine d'années, on va dire, entre 84 et 95, qui fait que, alors ça va vous parler, hein, puisque au travail, tous les jours, vous êtes devant votre écran, vous êtes à une réunion, vous avez une attention volontaire. Et cette attention volontaire va générer une fatigue mentale très, très importante. Voilà. Alors, fatigue mentale avec, je dirais, derrière, effectivement, du stress, de l'anxiété, enfin, tout un mécanisme qui va se mettre en place. Et donc, pour balancer, pour atténuer cette attention, cette fatigue, on va avoir ce qu'on appelle une attention spontanée. Et l'attention spontanée, c'est celle qui fait que vous ne faites aucun effort pour gérer votre attention. Hein, je prends l'exemple, vous êtes, alors la nature apporte ces choses-là, vous êtes devant une fleur, vous êtes devant un papillon, vous êtes devant la nature, et donc vous allez avoir une captation mentale. Et ça va générer de la relaxation mentale. Voilà, donc les trois théories qui, je veux dire, sont importantes aujourd'hui pour nous, hein, pour raisonner sur les différentes situations à risque. Alors,
allez-y, je vous en prie.
Si je reviens donc aux trois situations qu'on évoquait tout à l'heure,
oui.
Celle de la vie quotidienne, bah finalement, on va dire la théorie de la biophilie nous suffit. Mm-hmm. Hein, c'est-à-dire que voilà, on a besoin de vivants. C'est notre boulot, nous professionnels, d'amener de la nature dans l'espace urbain pour le bien-être du citadin. La deuxième situation, c'est une situation à risque avéré.
Oui.
Je parlais du milieu professionnel. Donc dans ce cas-là, effectivement, les gens vont générer des stress, de l'anxiété. Et donc là, on va devoir accompagner la personne dans ce milieu, dans cet environnement, on va dire, naturel, pour justement compenser cette difficulté. Alors, c'est par exemple introduire du végétal dans les lieux de travail, par exemple faire des salles de pause végétalisées. C'est peut-être aussi, aujourd'hui, on en parle, hein, faire des pauses végétales, mm-hmm, ou des pauses nature, hein, voilà, qui permettront donc pendant cette période de travail de pouvoir trouver des moments de relâchement, hein, de réduction du stress et puis de modification de l'attention.
Donc là, on va faire appel, si on vous suit, à l'attention spontanée, alors qu'on est en ce moment peut-être encore plus que d'habitude dans une attention volontaire. Est-ce qu'il y a un impact des écrans, par exemple? Nous vivons distanciés et de fait, les salariés qui travaillent d'ordinaire dans des bureaux sont très souvent en visioconférence. Est-ce que ça augmente cette attention volontaire et donc le stress qui est lié?
Alors, les écrans, bien sûr, hein, les smartphones, tous ces éléments-là, en fait, va mobiliser vraiment votre attention volontaire. Mmh. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a besoin de compenser. Vous me tendez la perche, parce qu'aujourd'hui, il y a une étude qui est en train de se faire, hein, donc je ne peux pas dévoiler obligatoirement le contenu, mais c'est en Chine. Hein, il y a un travail qui est réalisé actuellement sur lequel on a mesuré, pendant la période de confinement, l'attention des élèves à l'école pour pouvoir développer leur capacité d'apprentissage. Et on s'est aperçu que lorsqu'on faisait des pauses végétales pendant ces phases d'apprentissage, eh bien, on augmentait la capacité d'apprentissage des élèves. Voilà, donc c'est un exemple très concret hein, d'actualité.
C'est extrêmement concret, tout à fait d'actualité. Et en plus, c'est une recherche internationale. Je précise pour nos auditrices et nos auditeurs qui ne l'auraient pas noté que vous êtes enseignant-chercheur en biologie végétale et que dans notre premier épisode, nous avons exploré tous les liens que vous avez tissés entre les sciences du vivant et les sciences humaines, et en particulier la psychologie. Si maintenant on s'intéresse à la situation numéro 3, la pathologie...
Voilà. Alors, situation numéro 3, c'est ce qu'on appelle, nous, les situations post-pathologiques.
Oui.
Hein, et donc là, on va effectivement accompagner la personne jusque dans les lieux de soins. Alors, on parlera tout à l'heure un petit peu plus, hein, ce qu'on appelle les jardins à visée thérapeutique.
Mm-hmm. Je crois que vous êtes très pointilleux sur le terme.
Oui, tout à fait. Il y a eu... Enfin, je veux dire, c'est quelque chose de relativement récent quand même dans l'histoire. Donc, il y a des termes qui ont été évoqués. Je crois qu'aujourd'hui, on est assez d'accord pour dire, voilà, c'est des jardins à visée thérapeutique. Je reviendrai un petit peu là-dessus pour expliquer ça tout à l'heure. Alors, dans ces situations-là, tout ce que j'ai dit avant est vrai. C'est-à-dire de pouvoir avoir des plantes dans une chambre d'hôpital. Alors, vous savez qu'à une époque, on enlevait le végétal dans les chambres de soins parce que c'était pas aseptique, parce que ça pouvait apporter des allergies, parce que les plantes pouvaient être toxiques. Voilà. Donc aujourd'hui, vous voyez qu'on on avance beaucoup dans ce domaine-là. Alors, tout ce que j'ai dit tout à l'heure en termes de théorie sur la tension, sur la réduction du stress est vrai. Mais dans ces situations-là, le jardin à visée thérapeutique peut aller plus loin. Et donc, j'évoquerai notamment un protocole qui est utilisé, ce qu'on appelle la thérapie basée sur la nature. Alors, je prends l'exemple qui est appliqué, par exemple, sur les personnes qui sont en situation de burn-out.
Oui.
Bon, ça parlera, je pense,
à certaines
personnes. Donc, imaginez que pendant la situation de travail, voilà, on a fait tout ce qu'on a pu, mais il y a des personnes qui se retrouvent en situation de burn-out. Donc là, en fait, dans cette démarche, il y a quatre phases qui sont très importantes. La première phase, c'est ce qu'on appelle la phase d'appropriation. La personne a besoin de se poser, de couper, a besoin de sécurité. Sécurité physique, sécurité mentale, réduction d'agression. Voilà, ça, c'est une première phase. Et ça, on peut le faire facilement dans un espace de nature. Et ça, on a besoin de le faire aussi de façon seule, en solitude. Voilà. La deuxième phase, c'est ce qu'on appelle la phase de restauration. C'est-à-dire, une fois qu'on a passé cette étape, on commence à développer nos sensations, c'est-à-dire de sentir une odeur, d'entendre les bruits des oiseaux, par exemple, le coucou au printemps, par exemple. Voilà.
Par exemple.
On commence à se reconnecter à la nature et à stimuler nos sensations. Et bien sûr, ce qui va derrière aussi, ce sont les émotions. Et puis la troisième étape, c'est après l'ouverture. C'est-à-dire que là, on est en train de remonter progressivement la pente, on va dire, de la bonne santé. Hein. Et donc, c'est l'ouverture. Et l'ouverture, on a envie de se réaliser. On a envie d'être acteur. Donc là, on va aller dans le jardin. On va commencer à jardiner, à cueillir des fleurs, à semer des graines. Donc là, on devient acteur. Voilà. Et si ce processus, on va dire, est parfaitement réussi, après, on va devenir aussi ce qu'on appelle leader. C'est-à-dire qu'on va interagir socialement dans cet environnement naturel, c'est-à-dire travailler en groupe, animer l'entretien d'un jardin en groupe. Donc, on verra effectivement sur les problèmes d'entretien de jardin et visite thérapeutique tout à l'heure. Et donc, vous voyez ce crescendo qui fait que la nature, même si c'est un terme très générique, va intervenir de différentes façons en fonction de la situation dans laquelle se trouve la personne. Et la personne elle-même va aussi évoluer au cours de sa vie. Heureusement, une personne qui a une santé un peu plus faible à un moment donné, heureusement, il y a des solutions pour pouvoir améliorer sa santé, et la nature en est une.
Et ce qui est très intéressant, ça rejoint les définitions et la méthodologie que nous avions partagées en première émission, c'est qu'il y a une interaction, ça ne sont pas uniquement des questions de chiffres, de surface, mais aussi effectivement de moments de vie pour chacun, de nature des espaces, de nature en l'occurrence, de leur forme, de leur composition, mais aussi de la manière dont on va interagir avec elles. Alors, avant de parler des méthodologies pour créer des jardins à visée thérapeutique, si on faisait une tentative de définition, qu'est-ce que c'est qu'un jardin à visée thérapeutique? On a bien compris qu'on était en situation post-pathologique, donc quelqu'un qui a souffert d'une pathologie. Mais quelles sont les grandes caractéristiques d'un jardin à visée thérapeutique? Et on insiste bien sur le terme.
Alors, un jardin à visée thérapeutique, c'est déjà un jardin qui est intégré dans un espace de soins. Alors, ça peut être... alors, quand on dit pathologique, ça peut être aussi dans une situation de santé fragilisée par l'âge. Je pense notamment à des EHPAD, notamment. Hein, voilà. Donc, alors, il permet de créer à la fois un univers clos, hein, un univers sécurisé, mais aussi un univers ouvert.
Hein, c'est, toute la, c'est paradoxal, mais...
Alors, c'est peut-être paradoxal, mais si vous voulez, le patient doit se sentir en sécurité dans ce jardin, mais l'objectif aussi, c'est que le jardin le reconnecte à la vie. Alors, il y a une chose, le mot que je n'ai pas évoqué tout à l'heure, ce qu'on appelle l'autodétermination. Hein, c'est-à-dire que quand vous rentrez dans l'établissement de soins, vous êtes pris en charge. Pris en charge, ça veut dire que finalement, on décide un peu à votre place.
Oui.
Je mets des guillemets. Et le jardin, c'est aussi un endroit où on va respirer. Voilà. C'est l'endroit où on va pouvoir s'exprimer et on va se reconnecter au monde. Hein, voilà. Alors, là, dans la définition, quand on dit un jardin à visée thérapeutique, c'est aussi que le jardin va intervenir comme un médiateur. Un médiateur pour accompagner les protocoles thérapeutiques qui vont être mis en place dans l'établissement et donc surtout pour améliorer leur efficience. Et puis je terminerai aussi pour dire qu'un jardin à visée thérapeutique, c'est un jardin, je l'ai dit, qui est un établissement de soins, c'est aussi un établissement pour tout le monde, que ce jardin va aussi contribuer à la santé de l'ensemble des acteurs, y compris personnel, y compris les soignants, les soignés, mais également les familles.
Oui.
Hein, et pour faire le lien à la mission qu'on a eue précédemment, ce jardin va jouer un rôle social. Le patient va accueillir sa famille dans le jardin. Donc, c'est très, très
ça
important.
Ça participe aussi de ça.
Il va se réaliser. Il va être acteur. Et en plus, il va recevoir des soins.
Alors, on a une définition qui est très claire. Je signale la parution il y a quelques mois d'une petite somme qui est un guide pratique de conception et élaboration de jardins à l'usage des établissements sociaux, médico-sociaux et sanitaires, une publication notamment avec l'École nationale supérieure de paysage Versailles-Marseille, l'association Jardin et Santé, et le tout soutenu par la fondation Médéric Alzheimer. Vous aurez le lien sur la page de l'émission, il est ici. Alors Gilles, vous êtes d'un des co-auteurs de ce guide. Dans les grandes lignes, quelles sont les grandes étapes, les grands conseils méthodologiques, les grands axes pour concevoir et élaborer ces fameux jardins à visée thérapeutique?
Alors, vous avez cité l'association Jardin et Santé.
Oui. Hein.
Cette association, depuis une dizaine d'années, accompagne des établissements à mettre en place des jardins à visée thérapeutique dans l'établissement de soins. Au bout de 10 ans, il y a des très belles réussites. Malheureusement, il y a aussi des échecs. Et donc, il semblait nécessaire de pouvoir tirer information de toute cette expérience pour pouvoir réaliser un guide qui permettra demain à tous les établissements qui se posent la question pour rentrer dans cette belle aventure de pouvoir avoir toutes les chances de réussite et d'avoir les clés principales pour réussir. Alors, j'en profite quand même pour nommer mes co-auteurs.
Bien sûr, avec plaisir.
Donc, Mélissa Girard, qui était étudiante paysage, Véronique Lollier, vous l'avez dit, qui est de l'école de l'horticulture de Versailles, Kevin Charras, donc de la Fondation Médéric Alzheimer, et donc qui ont contribué effectivement à cet ouvrage. Alors vous me posez la question, finalement, qu'est-ce qui est important à prendre en compte quand on veut mettre en place un jardin à visée thérapeutique dans un établissement? Alors j'ai envie de commencer par une chose qui est peut-être banale, mais j'ai envie de le dire, un jardin n'est pas thérapeutique. Par définition, il n'est pas thérapeutique. Un jardin, c'est un jardin. Point.
Point.
Il devient thérapeutique par l'usage que l'on va en faire. D'où le nom que l'on a affiché clairement dans ce titre, un jardin à visée thérapeutique. Et donc, quand je dis ça, je dis beaucoup. Parce que quand on dit, c'est ce qu'on va en faire.
Il y a une intention.
Eh bien donc, quand on va vouloir faire un jardin, la première chose est de savoir qu'est-ce qu'on veut en faire. Voilà. Donc, je vais revenir un petit peu là-dessus. Alors, un jardin, quelque part, dans un établissement, j'ai évoqué un petit peu tout à l'heure, c'est un médiateur thérapeutique. Hein, c'est-à-dire qu'on va l'utiliser pour accompagner toutes les démarches de soins. Et par rapport à ce qui ressort dans ce guide, quand quelqu'un vient nous voir en disant nous, ça nous intéresserait de mettre en place un jardin dans notre établissement, je crois que l'élément le plus important, c'est la phase de préparation, la phase d'initiation de ce jardin. C'est-à-dire, quels vont être les acteurs ? Il faut une communauté d'acteurs qui vont travailler dans la mise en place de ce jardin. Communauté d'acteurs et aussi qui, pour chacun, va définir ses propres objectifs. Alors, je cite hein, volontairement, ce sont le personnel de soins, mmh. ce sont les soignés, ce sont les familles aussi qui peuvent être interrogées, ce sont aussi les cadres de santé, parce qu'il y aura des prises de décision importantes. Ce sont aussi, alors il peut y avoir une ouverture, tout à l'heure je disais ouverture par rapport au monde, le jardin peut être connecté aussi avec une école de proximité, hein, avec une association de proximité. Voilà. Donc ça, c'est la phase vraiment de conception qui est importante. Après, on a une phase de réalisation, donc on met en place un jardin. Alors là, je me permets de dire quand même qu'un jardin, quand il naît, il est petit, il est peut-être pas très beau, et plus ça va, plus il va grandir.
C'est un potentiel.
Voilà. On aime ce qui est différent d'un bâtiment. Mmh. Un bâtiment, vous le livrez, il est super. Plus vous allez attendre, et puis il va se dégrader. Voilà. Alors, donc, ça, c'est la phase de réalisation. Et puis, la deuxième partie très importante, c'est l'animation. Qu'est-ce qu'on va faire dans ce jardin ? Mmh. Et donc là, c'est très important. Vous voyez bien que c'est lié aussi à la phase d'initiation.
Absolument.
C'est-à-dire, est-ce que c'est effectivement pour aller... On a des jardins, par exemple, où toutes les pratiques, le psychologue ou le psychiatre vont aller faire des séances dans le jardin. Tout ce qui est motricité et autres peuvent être faites dans le jardin. Donc, il y a un certain nombre d'actes thérapeutiques qui peuvent être faits dans le jardin. Et ça, c'est aussi un facteur de réussite. Parce que si tout ça fonctionne, eh ben, le jardin va vivre et deviendra, je vais finir par ça, indispensable finalement à la vie d'établissement.
Alors on le voit, des effets positifs, un potentiel qui peut s'exprimer à partir du moment où on a défini des objectifs, où on a un dessin EIN, dont le dessin IN se fait l'interprète, et puis une médiation, vous le dites régulièrement, une médiation avec les usagers, vraiment cette relation entre les humains et la nature. Alors, chères auditrices, chers auditeurs, restez avec nous, d'abord pour une pause musicale, qui est utile pour tenir la distance hein, et se rafraîchir l'esprit après cette première partie. Et rendez-vous dans moins de 5 minutes avec Romane Glottin, qui entame un tour de France des jardins de soins à vélo électrique. On ne vous dit que ça, restez avec nous.
Nature urbaine, le reportage.
Partons pour une parenthèse à bonne distance. Marchons dans le désert avec un minimum en compagnie d'un naturaliste qui revendiquait volontiers d'être généraliste, un peu comme vous, Gilles. Un des co-auteurs d'ailleurs d'un ouvrage qui devrait se trouver sur tous les chevets, dont le titre est « La plus belle histoire des plantes, les racines de notre vie ». Je veux bien sûr parler de Théodore Monod. Écoutons donc Alain Souchon avec ce titre « La vie Théodore ».
On s'ennuie tellement, on s'ennuie tellement, on s'ennuie tellement, on s'ennuie tellement. Alors la nuit quand je dors, je pars avec Théodore dehors. Marcher dans le désert, marcher dans les pierres, marcher des journées entières, marcher dans le désert, dormir dehors, coucher sur le sable d'or, les satellites et les météores. Dormir dehors, il faut un minimum, une Bible, un cœur d'homme, un petit gobelet d'aluminium, il faut un minimum. Si loin si loin du grand désert, si loin.
chercheur de trésors, de brindilles et de phosphore, d'amour humain et d'effort, chercheur de trésors. Il faut un minimum, une Bible, un cœur d'homme, un petit gobelet d'aluminium.
Nature urbaine, l'interview, deuxième partie.
Bonjour à toutes et à tous. Retour sur le plateau de Natures urbaines, l'émission qui relie le vivant et la ville, pour le deuxième épisode de notre mini-série La nature, c'est la santé, consacrée au jardin à visée thérapeutique. Nous sommes toujours en compagnie de Gilles Galopin, enseignant-chercheur en biologie végétale. Et nous rejoint aussi Romane Glotin. Bonjour Romane.
Bonjour Pierre.
Alors, dans la première partie, nous avons découvert avec Gilles des éléments de méthode pour agir en faveur de la santé. Et en particulier, j'ai créé des jardins à visée thérapeutique que certains appellent jardins de soins. Romane, vous allez très bientôt débuter, vous avez débuté un tour de France à vélo électrique à la rencontre des acteurs qui font vivre les jardins à visée thérapeutique. Alors, première question, Romane, comment vous est venue cette idée de vous lancer dans un Tour de France?
Alors, ce Tour de France, bon, l'idée n'est pas venue du jour au lendemain comme ça. C'est vrai que, bon, maintenant, moi, ça fait une petite dizaine d'années que j'ai commencé à connaître le concept des jardins à visée thérapeutique, dont je me suis passionnée et je me passionne autant aujourd'hui. Et c'est vrai que finalement, bon, par les réseaux sociaux, par Internet, on voit pas mal d'initiatives et de professionnels, de passionnés qui se lancent dans l'aménagement, l'animation des jardins à visée thérapeutique dans des établissements de santé et médico-sociaux. Voilà, et puis c'est vrai que finalement, les différents confinements ont amené un peu à une prise de conscience qui a été assez généralisée de la population sur les bienfaits que la nature et le végétal pouvaient nous apporter. Et dû à la fin du premier des confinements, c'est vrai que j'ai reçu énormément de sollicitations, d'appels et de messages de professionnels de la santé qui avaient envie d'aménager ce genre de jardin dans leur structure, parce que mine de rien, beaucoup d'ateliers d'animation étaient fermés, et puis aussi beaucoup de reconversions professionnelles de différentes personnes. Je pense que c'est pas un hasard non plus. Justement, Gilles évoquait le concept de la biophilie, finalement, qui est cet attrait inné qu'on a envers la nature. Et je pense que la reconversion professionnelle n'est pas un hasard qu'on veuille se reconvertir justement vers le végétal. Et donc, je me suis dit qu'à ce moment-là, les différentes initiatives qui commençaient un petit peu à se développer en France, je me suis dit, bon, c'est peut-être le moment un petit peu de partir à la rencontre justement de ces acteurs, de ces porteurs de projets qui avaient envie de mener, qui mènent des projets de jardin et d'animation de jardinage dans leurs établissements auprès de différents publics. Donc, on parle beaucoup de la personne âgée, c'est assez fréquent.
Alors voilà, ça aussi... c'était une question que j'allais vous poser, effectivement. Quel type de public sont accueillis dans ces jardins de soins et quelles pathologies est-ce qu'ils peuvent aider à améliorer, en tous les cas, à résorber, si je puis dire.
Alors, finalement, il y a différents types de publics. Il n'y a pas de public vraiment cible. On peut très bien aménager ces jardins qui sont à destination de personnes âgées avec ou sans troubles ou avec maladie Alzheimer. Mais ça peut être très bien des enfants qui sont hospitalisés. On en trouve aussi pas mal dans les hôpitaux psychiatriques. C'est vrai que pour la maladie mentale, ça aide à la valorisation, à l'éveil. Et puis, ça peut être tout simplement aussi dans des maisons d'arrêt pour des détenus. Mmh. Donc, je pense beaucoup là aussi à la valorisation de soi. Et puis, il faut savoir que le jardin, il aide la pathologie en elle-même quand elle est installée, mais ça peut être aussi en but de prévention. Donc, on parlait de burn-out, ça, c'est destiné pour ces publics-là aussi. Ça peut être des personnes, des femmes qui sont atteintes de cancer. Et ça peut être aussi pour des publics voilà, qui ont des troubles du comportement alimentaire, un handicap moteur. Donc, il n'y a pas de public vraiment destiné pour cette médiation. Après, il faut savoir l'utiliser.
À bon escient. Voilà. Alors justement, si on se donnait quelques exemples, et Gilles peut contribuer aussi à la réponse, entre, si je puis dire, des couples, entre des pathologies et les caractéristiques des espaces et la nature des leviers qui sont employés. Qu'est-ce qu'on peut citer comme exemple? Vous avez cité différents types de populations qui peuvent être incluses dans ces jardins à visée thérapeutique. Quels sont les leviers, en donnant quelques exemples?
Je veux bien répondre en partie, c'est-à-dire que par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, finalement, ce jardin doit accompagner toutes les activités qu'il y a dans l'établissement de soins. Mm-hmm. Et puis accueillir aussi tous les publics qui travaillent dans cet établissement de soins, enfin comme je disais tout à l'heure, hein, soignants, soignés et différents publics. Par contre, ce qui est important, que je veux signer aujourd'hui, par rapport à des nouveaux établissements qu'on accompagne aujourd'hui. Donc, les gens se posent beaucoup de questions sur c'est quoi un jardin, est-ce que ça va être compliqué, pas compliqué, voilà. Eh bien, aujourd'hui, on voit qu'on est amené à travailler dans des services spécialisés. Je pense, par exemple, en psychiatrie enfantine. Je pense, par exemple, en cancérologie. On travaille sur un service uniquement en cancérologie. Je pense en addictologie. Et donc, ce qui va surtout différencier, c'est au niveau de l'animation. Mm-hmm. C'est-à-dire que le jardin ne va peut-être pas changer beaucoup, mais par contre, au niveau de l'animation qu'on va faire, on doit accompagner ces pathologies. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que par rapport à des personnels de soins, de pouvoir les mettre en réseau. C'est-à-dire qu'un service de cancérologie, s'il peut dialoguer avec un homologue qui a mis en place un jardin, un service de cancérologie, ça va être beaucoup plus parlant pour lui. Et donc, notre niveau d'expérience aujourd'hui commence à nous permettre de mettre les gens en réseau pour plus facilement, on va dire, leur donner envie de faire un jardin et qu'ils soient beaucoup plus à l'aise dans les perspectives et dans la projection.
Roman, vous confirmez, l'objet jardin n'est pas forcément différent, mais on peut accueillir différents types de publics.
Exactement. Et puis, c'est vrai qu'il y a des jardins à visée thérapeutique qui commencent à s'aménager dans des structures avec un public qui est très particulier, comme là, on parlait en cancérologie. Ce qui est plus commun, par exemple, dans des maisons de retraite, finalement, où la capacité motrice va être un peu moindre. Et du coup, bon, il y a l'exemple qui est très fréquent des bacs à hauteur. Mais voilà, c'est ce que je dis souvent, des bacs à hauteur, c'est pas forcément dans tous les jardins à visée thérapeutique. Bien sûr, on va pouvoir aménager le jardin voilà, pour qu'il soit agréable et qu'on ait envie d'y aller. Mais c'est bien sûr la fréquence d'utilisation du jardin et les animations qu'on va pouvoir proposer, qui doivent être régulières aussi, pour aider à la réhabilitation de la santé et aux objectifs qu'on s'est mis en amont à atteindre. Voilà.
Est-ce qu'on peut, par exemple, détailler, Roman, un type d'animation par rapport à un objectif donné dans un jardin à visée thérapeutique? Pour donner de l'exemple, toujours.
Oui, ça peut être très simple. Hein. Ça peut être tout simplement faire pousser une plante, donc pouvoir commencer à semer la graine à une telle saison. Et puis finalement, après, cette graine-là, bon, il va falloir l'entretenir. Donc là, on rentre dans un processus du soigné qui devient soignant finalement envers la plante. Et du coup, ça va être différentes étapes comme l'arrosage, le paillage. Et puis après, donc, cette plante-là va pouvoir amener une fleur, puis un fruit venant l'été qu'on va pouvoir consommer. Donc là, on rentre beaucoup dans la valorisation finalement de ce que la personne a pu créer. Et aussi, ça peut être aussi au niveau de la temporalité, parce que du coup, là, on travaille vraiment sur les quatre saisons. Et au niveau du repérage, c'est hyper important. Bon, là, je pense encore à la personne âgée qui peut perdre ses repères, par exemple. Donc voilà, ça, c'est quelque chose de très simple.
D'accord.
Mais qui fonctionne plutôt bien.
Excellent. On joue donc sur la temporalité, le tempo aussi qui est relativement lent, celui du vivant. On dit souvent c'est le temps long. Et puis, cette charge symbolique liée au végétal, récolter le fruit de son travail au sens propre comme figuré, ça fait partie des ressorts qui sont utilisés.
Voilà, exactement. Et puis,
Alors, Roman, donc, vous faites ce tour de France. Est-ce que vous pouvez décrire en quelques étapes les régions que vous allez traverser et quelques noms de jardins ou d'étapes, elles sont toutes emblématiques, j'imagine, mais voilà, ouais. Quelques données clés.
Oui, alors ça a été très compliqué hein, de sélectionner les jardins, parce qu'il faut savoir que les jardins purement à visée thérapeutique, finalement le concept commence à bien se développer en France, mais n'est pas encore tout à fait développé. Et du coup, pour en sélectionner vraiment des jardins à visée thérapeutique, voilà, enfin, les 40 jardins, donc il y a 40 jardins à l'intérieur que je dois aller voir, tous ne vont pas être purement à visée thérapeutique. Donc, c'est ça aussi qu'il faut entendre. C'est aussi pour montrer une réalité de terrain, justement, en France et pour faire avancer le concept. Mm-hmm. Donc, il y en a plusieurs. Donc, j'ai essayé aussi qu'ils soient divers et variés. Donc, il y a un jardin à la maison d'arrêt de Tulle que mm-hmm. je dois aller voir, qui est à destination de détenus. Il y a le jardin du CHU de Saint-Étienne, donc qui est pour des patients qui sont atteints de la maladie mentale en psychiatrie.
Dans l'une des plus belles, si ce n'est pas la plus belle région de France et du monde, cocorico à tous mes compatriotes ligériens. Pardon, je vous ai coupé, je ne pouvais pas m'en empêcher.
Il n'y a pas de souci. Et du coup, pour voilà, Saint-Étienne, là par contre, il y a eu une étude qui était sortie et tout ça, donc je pense qu'on peut parler de jardin à visée thérapeutique. Il y a Castelnaudary, le jardin des vents, il y a vers Bordeaux, en Gironde, donc il y a le jardin des murmures, qui est du coup un jardin extra-institutionnel avec un cabinet d'une thérapeute, où là, elle accueille des personnes qui sont en burn-out et qui sont atteintes de cancer. Donc voilà, je parlais des jardins aussi qui sont extra aux institutions, extra-institutionnels, qui sont aussi importants à valoriser finalement aussi, parce que du coup, c'est les structures qui viennent au jardin et ça permet aussi de pouvoir couper le quotidien des personnes qui est souvent médicalisée et de pouvoir se sentir acteur. Après, il y en a voilà, en région parisienne, le long de la Loire aussi. Sur Rennes, donc ça fait un beau parcours.
C'est un beau parcours et vous le faites avec quel moyen de transport ?
Un vélo électrique.
Vélo électrique. Alors pourquoi vous rajoutez ce petit challenge supplémentaire ?
Bon, ça me permettait plus important. On est un peu aussi dans un mood aujourd'hui, on valorise quand même l'écologie pas mal, et puis j'aime beaucoup le sport, j'adore le vélo. Voilà, après électrique, c'était vraiment une option à la base, ça devait être un vélo lambda, mais après il faut que je n'ai pas non plus 6 mois devant moi, j'ai 1 mois et demi pour faire ce tour, et du coup il faut un peu accélérer la cadence.
Et pour aller de Saint-Étienne à Tulle, effectivement, il faut un bon coup de pédale. Ce sont les coureurs du Tour de France qui vont vous regarder avec attention, j'espère. Et donc, pour nos auditrices et nos auditeurs, dont peut-être des coureurs du Tour de France, est-ce que vous pouvez nous donner les dates de ce tour ? Nous sommes en mai, donc vous avez démarré ce tour. Quand est-ce qu'il se termine ? Et puis, comment suivre votre pérégrination ?
Donc, je pars le 10 mai. De mon ancien lycée agricole à Saint-Herblain, donc en Loire-Atlantique, qui a été le premier partenaire financier et qui a adhéré au projet. Voilà. Et puis c'est là-bas aussi que j'ai connu le concept des jardins visés thérapeutiques, donc c'était comme un symbole aussi de faire le départ là-bas.
Donc vous partez le 10 mai, et quand est-ce que vous arrivez ?
Et je reviens le 15 juillet, donc sur Saint-Nazaire, dans un IME. Donc l'IME, c'est un institut médico-éducatif où je suis éducatrice spécialisée justement là-bas.
Donc c'est une période, c'est une période relativement dense pour parcourir tous ces kilomètres.
Ben oui, ça fait 2 mois et demi. Il y a 6 à 7 mois de préparation en amont. Ça a été un gros projet qui a demandé énormément d'investissement. Personnel, professionnel, et puis il a fallu aussi se coordonner avec tous les acteurs que je vais pouvoir rencontrer sur le parcours, au niveau des logements, au niveau des jardins, au niveau des partenaires financiers aussi.
Bien sûr.
Mais bon, il y a eu énormément de succès, entre guillemets, beaucoup d'intérêt, et du coup j'en suis plutôt super contente. Je pense que ça va pouvoir donner un élan aussi au niveau de l'avancée
de ces jardins. Avec un financement participatif qui a très bien fonctionné. Et si on veut suivre vos aventures et puis continuer et s'embarquer sur votre navire ou votre vélo dans votre porte-bagages, comment est-ce qu'on fait pour vous suivre ?
Alors, bah, bien sûr, il y a les réseaux sociaux, donc il y a Facebook et puis Instagram, donc au nom de mon association que j'ai créée l'année dernière, donc qui s'appelle le Jardin des Maupassants, Maux M-A-U-X.
Voilà, les mots
Et
passants,
puis,
M-A-U-X, apostrophe,
voilà.
passant. Voilà, le nom s'affiche à l'écran pour ceux
Yes.
qui ont le visuel de notre émission.
Voilà,
Instagram,
puis après, il y a
Facebook.
un blog, et puis un blog cartographié donc sur Polar Steppe qui permet de me suivre au jour le jour et puis de voir un petit peu les photos et les articles que je publierai au fur et à mesure des avancées. Sans oublier la chaîne YouTube où du coup les vidéos des jardins, des petites vidéos courtes de 2-3 minutes seront postées pareil au jour le jour où je rencontrerai et je prendrai découverte de ces jardins visés thérapeutiques. Voilà.
Merci beaucoup, Romane. Nous arrivons bientôt au terme de cette émission, mais je vais vous laisser à chacun avec une prise de parole courte, puisque le délai est bientôt écoulé. Une carte blanche, si vous voulez ajouter un mot. Gilles, tout d'abord.
Eh bien, je voudrais juste reprendre un mot qu'a utilisé Romane, c'était élan. Et je crois qu'aujourd'hui, nous travaillons pour justement accompagner cet élan, accompagner les établissements qui ont déjà engagé dans cette aventure, ceux qui ont envie de le faire. Comment mutualiser les expériences. On a parlé de l'association Jardin et Santé. Il y a aussi une fédération nationale qui se crée pour accompagner les jardins à visite thérapeutique. Et puis aujourd'hui, on est aussi en train de réfléchir à une labellisation des jardins à visite thérapeutique. Tout ça simplement pour accompagner l'élan, pour qu'au niveau national, ça devienne vraiment quelque chose de très important dans ton établissement de soins.
Romane,
Oui.
le mot de la
Et
fin.
puis, juste pour poursuivre ce que Gilles disait, c'est vrai que les jardins à visite thérapeutique, aujourd'hui, tout le monde n'a pas la même définition. C'est pas clair non plus pour tout le monde, même au niveau des formations et de ce que peut être vraiment un jardin à visite thérapeutique. Et d'où la labellisation, je pense, qui sera très importante dans les années à venir. Voilà. Et puis, j'avais juste oublié de dire que pendant le parcours du Tour de France, il y aura des haltes dans des établissements agricoles qui est prévu pour des interventions et de la sensibilisation auprès des étudiants qui se forment au végétal, parce que je pense vraiment que ça va être une filière qui tend à se développer au niveau professionnel. Voilà, donc
Absolument.
merci beaucoup.
Eh bien, merci à vous, Romane. Merci, Gilles. Nous avons parcouru ensemble un petit peu plus de chemin à bicyclette, j'ai envie de dire, et qui a permis de raccourcir la distance. Clin d'œil à notre billet entre nature et santé. Et ainsi s'achève, hélas, déjà notre mini-série qui a ouvert, nous l'espérons, chères auditrices, chers auditeurs, de nombreux horizons au jardin, à vélo ou à pied. N'oubliez pas de suivre les aventures de Romane sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, YouTube et sur son blog en tapant le jardin des mots M-A-U-X passant. Merci à toute l'équipe. Cette émission a été possible grâce à la ténacité de Sylvain et Olivier, avec à la technique la bonne humeur et les rires, pour ne pas dire l'urbanité, de Baptiste, Jason et Théo. Portez-vous bien, cultivez votre jardin et surtout, restons en lien.
Nature urbaine, l'émission qui relie le vivant et la ville, animée par Pierre Darmet, en partenariat avec les Jardins de Galie.